Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, proposée par Pierre Barry.
Bonjour et très bonne année à tous.
Et Michel Lafon qui lui aussi vous souhaite une excellente année cinématographique, mais pas que cinématographique, bien entendu. Cette semaine, un peu de sortie sur les écrans, c'est un peu souvent comme ça après les fêtes de fin d'année. Et le mois de janvier n'est, paraît-il, pas très bon en termes d'exploitation. Licorice Pizza, en attendant Bojangles 355, Mes frères et moi, Twist à Bamako, voilà les 5 nouveautés sur les écrans Manceau. Pour la programmation musicale, là, j'avais l'embarras du choix. Les années 60 avec Twist à Bamako, les années 70 avec
Licorice
Pizza.
Oui.
Eh bien, j'ai choisi d'alterner. On va commencer par, alors ça, ça va faire plaisir à Pierre Barry parce que c'est son créneau. Les chats sauvages. Twist à Saint-Tropez.
Oui.
Voilà, Twist à Saint-Tropez sur Radio Alpa.
Dick Rivers.
Oui.
Saint-Tropez, on est toujours en avance à Saint-Tropez. Badi, mes péchites, Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. S'en passer tous viennent ici pour s'amuser tous ont toujours appris à danser tous à Saint-Tropez oui on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez on voit sur la plage mille visages plus tard ils iront danser.
Ah oui, on faisait des titres courts à cette époque-là. Hein. Twist à Saint-Tropez, Les Chats Sauvages avec Dick Rivers. Alors, si vous avez l'occasion de traîner du côté du cimetière Montmartre, vous verrez la tombe de Dick Rivers. Elle est assez particulière, mais bon, chacun ses goûts.
Du Twist à Saint-Tropez à Bamako.
Eh oui, alors là, ni Pierre ni moi n'avons vu le film,
non,
mais nous savons qu'il y a ce titre dans le film, comme d'autres que nous allons vous passer. Alors, on commence notre semaine cinématographique avec Licorice Pizza. C'est un film de Paul Thomas Anderson, proposé par les cinéastes avec 3 séances par jour, bien entendu en version originale. Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain né en 70. Il a commencé par le court-métrage. Premier long-métrage en 96, Hard Hate. Eh bien, jusqu'à maintenant, il était inédit, mais vous pouvez le voir encore. Enfin, vous pouvez le voir maintenant, cette semaine, au cinéaste, parce que ce n'est pas une nouveauté, mais le cinéaste propose Hard Hate avec une séance par jour en général. Pas lundi, mais autrement, il y a une séance par jour pour ce premier film de Paul Thomas Anderson. Moi, je l'ai découvert en 97 avec Boogie Nights, qui avait révélé Mark Wahlberg, mais on trouvait aussi dans le film Burt Reynolds et Julianne Moore. 99, Magnolia avec Tom Cruise, William H. Macy. 2001, Punch Drunk Love avec Adam Sandler et Philip Seymour Hoffman. 2007, There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano. 2012, The Master, avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman. 2014, Inherent Vice, avec Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson. Et 2015, Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis et Vicky Krieps. Voilà, le film dure 2h13. On est en 1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà l'expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors norme, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision, mais rien ne se passe comme prévu. Une revue de presse unanimement favorable. Mathieu Macheret dans Le Monde dans un long métrage virevoltant. Paul Thomas Anderson compte l'histoire d'amour de deux adolescents portés par des acteurs éblouissants. Alors les acteurs éblouissants, c'est Alana Haim et Cooper Hoffman. Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson. Le Parisien, comédie romantique aussi folle que tendre, réalisée en roue libre par un cinéaste qui manie la mélancolie comme personne. Licorice Pizza est de ces films qui laissent une curieuse impression d'où sa mère à la sortie de la salle. Adrien Gombeau dans Les Échos, plongé dans le Los Angeles des années 70. Le nouveau Paul Thomas Anderson est une splendeur sans queue ni tête. Un grand film romantique d'amour et de jeunesse, absurde et fou. Thierry Chaise dans West France déclare que le film est une magnifique histoire d'amour. Frédéric Foubert dans Première, Licorice Pizza sera donc un film de pur plaisir, loin des casse-têtes métaphysiques, parfois intimidantes, dont son auteur avait fini par se faire une spécialité. Une balade 70s donnant l'impression d'avoir été tournée les mains dans les poches, un sourire rêveur aux lèvres. Alexandre Janowiak dans Écran large, Paul Thomas Anderson lâche totalement prise dans son déroutant Licorice Pizza, épopée amoureuse sinueuse et imprévisible au cœur du Los Angeles rêveur, mais pas si nostalgique des 70s. C'est délicat, drôle, libre, hors norme, plein d'amour et mené par le sublime duo Alana Haim-Cooper Hoffman. Céline Rouden, La Croix, hymne à l'enfance. Et à une Amérique de tous les possibles, ce film virtuose déjoue toutes les conventions du genre pour nous entraîner dans une balade poétique et fantaisiste au charme nostalgique tenace. Et je continue. Barbara Théâtre, de Journal du Dimanche, une bulle de bonne humeur et d'optimisme forcené, née de l'imagination d'un cinéaste qui nous a habitués à plus de gravité et de noirceur. Tout ça dans une atmosphère empreinte d'une belle nostalgie. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Disons que le programmateur des cinéastes considère que c'est le meilleur film de l'année. Mais enfin bon, je pense qu'il fait référence à 2021. Parce que sinon, le meilleur film de l'année, c'est le meilleur film de la semaine.
C'est le meilleur film de la semaine.
Eh bien, moi, je vais être le vilain petit canard, parce que Pierre a beaucoup aimé le film. Et oui, je vais être le vilain petit canard qui a du mal à s'expliquer. L'enthousiasme unanime de la critique pour ce film donc de Paul Thomas Anderson, qui n'est pour moi qu'une comédie romantique sans grands enjeux, guère différente dans son schéma narratif de l'habituel « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Bref, une sorte de chassé-croisé amoureux contrarié où chacun rate l'autre jusqu'au happy end. Voilà, c'est une histoire d'amour entre un jeune ado, Gary, 15 ans, petite vedette de cinéma, et une jeune femme, Alana, de 10 ans son aînée, dont il tombe amoureux au premier regard quand il la rencontre comme assistante d'un photographe venu faire les photos de classe dans son lycée. Alors celle-ci, amusée, se laisse volontiers séduire, sans aller d'ailleurs beaucoup plus loin. La suite, eh bien, raconte leur relation gentiment conflictuelle, faite de ruptures, de jalousies feutrées, de retrouvailles, tant sentimentales que professionnelles. Professionnelles parce que, on va le voir, Gary est très doué pour flairer les tendances et monter des entreprises fructueuses. Bon, on a quand même un petit peu de mal à croire qu'à 15 ans, on puisse, même aux États-Unis, dans le pays de la libre entreprise, monter aussi facilement des affaires. Mais après tout, pourquoi pas, je ne sais pas. Le problème pour moi du film, c'est pas l'histoire d'amour, le problème c'est les multiples et très longues digressions anecdotiques. Alors certes, pleines d'allusions à l'époque, l'époque c'est les années 70 en Californie, allusions notamment cinématographiques, comme le faisait par exemple Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood, mais honnêtement pour moi moins intéressantes. Par exemple, je les trouve superflues et étirées, comme celle avec, dans laquelle on voit Sean Penn, voire celle avec Bradley Cooper, comme des personnages ou qui ont existé ou inspirés de personnages qui ont existé et auxquels je ne trouve d'ailleurs pas beaucoup d'intérêt. Alors certes, tout ceci est très bien filmé avec moult plans séquences et long travelling sur les deux personnages qui courent, mais c'est au service d'une histoire évidemment pleine de fraîcheur, mais pas si passionnante que ça. Moi, bon, mais peut-être parce que je suis vieux, donc je suis plus sensible à ces amours, pas adolescentes, mais quasi. Ça vaut surtout pour l'évocation d'un contexte qui nous est quand même pas un contexte si familier que ça, nous Français. En fait, moi je trouve qu'en centrant le film sur l'histoire en train d'arriver entre Gary et Alana et en limitant ces scènes de digression, j'aurais certainement été beaucoup plus emballé. Bon, personnellement, je préfère le Paul Thomas Anderson de films plus ambitieux dans leur sujet. Là, j'ai juste vu un petit film nostalgique d'une époque révolue interprété par deux jeunes acteurs prometteurs. Bon, j'ai trouvé quand même bien léger et surtout bien long, mais le film est sauvé par Pierre Barry.
Ah oui, tu l'as dit, film de l'année, me suis-je laissé dire avant la séance au cinéaste, mais l'année ne fait que commencer. En tout cas, j'ai trouvé ce film excellent, moi, de bonne humeur, de romance bien ficelée. J'ai apprécié les silences qui ponctuent régulièrement les dialogues. J'ai aimé beaucoup la bande originale,
ah, oui.
Très riche.
Là, je suis d'accord.
Qui n'a pas été sans me rappeler d'ailleurs celle de Il était une fois à Hollywood,
oui.
Qui était très riche aussi. Très bons choix musicaux pour ces deux films. Et puis j'ai été aussi fasciné par la présence quasi constante d'Alana, à tel point que j'en ai parfois oublié les sous-titres, tellement j'étais accroché à l'écran. Alana, dont c'est le premier rôle à l'écran en plus, hein, est extra et on ne demande qu'à la revoir dans d'autres films. En un mot, j'ai adoré.
Voilà, donc c'est moi le vilain canard, celui qui n'a rien compris au film. Voilà. C'est Licorice Pizza, c'est au cinéaste et il y a 3 séances par jour. En attendant, Bojangles, là on quitte les cinéastes et on va au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est un film de Régis Roinsart, réalisateur scénariste français né en 72. Il a commencé comme beaucoup donc par le court-métrage. J'avais adoré en 2012 Populaire avec Romain Duris et Déborah François. Vraiment, c'était pour moi un des films de l'année 2012. J'avais moins aimé Les Traducteurs en 2020 avec Lambert Wilson et Olga Kurienko, mais je viens de le revoir puisqu'il passe actuellement sur Canal. Et ben, je l'ai davantage apprécié en le revoyant, voilà, Les Traducteurs. Le film Attendant Bojangles dure 2h05. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles. Chez eux, il n'y a pas de place, il n'y a de place plutôt d'ailleurs que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. Alors là, une revue de presse très 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 partagée. Hein. Thierry Chaise dans West France déclare que c'est un film attachant où rayonne Virginie Efira, décidément à l'aise dans tous les registres. Télérama, Frédéric Strauss, il nous touche, il c'est les héros de ce film, hein, nous touche en plein cœur, les héros de ce film qui prend la forme d'un étonnant hymne à l'amour, aussi excentrique soit-il, Régis Roinsart sait les rendre proches de nous, comme ils sont à l'évidence proches de lui. La rédaction du Parisien, de ce roman fou, reste un film un peu sage, mais qui fait battre le cœur très fort, ne le boudons pas. Thierry Chaise dans Première, on sent le cinéaste plus à l'aise dans les moments joyeux où l'espièglerie est aux commandes, mais quand le ton se fait plus noir, voire désespéré, il peut s'appuyer sur une Virginie Efira, à l'aise, elle, dans tous les registres. Fabrice Leclerc dans Paris Match, le film est un poil trop long et hésitant, mais il s'en dégage quand même une vraie élégance. Stéphane Joby dans Le Journal du Dimanche, toute la poésie du livre, oui c'est une adaptation d'un roman, qui tenait pour bonne part à sa narration par le regard émerveillé de l'enfant, disparaît dans un récit plus à plat. Reste les décors et la présence de Virginie Efira, une nouvelle fois impeccable en femme borderline. Eric Neuhoff dans Le Figaro. Le film patine, tourne à vide, inutile, gênant, enchanté de lui-même et hésite entre Modiano et Boris Vian. Xavier Le Herpeur dans L'Obs. Les comédiens font ce qu'ils
comptent. Non, c'est Gère.
Oui, alors donc, je recommence tout parce que mon micro était coupé et donc il y a eu un problème. Du début jusqu'à la fin. Donc, En attendant Bojangles, c'est un film de Régis Roinsart. Régis Roinsart, réalisateur, scénariste, né en 72. Il avait réalisé un court-métrage pour se faire connaître et en 2012, Populaire, avec Romain Duris, Déborah François et Bérénice Béjot. J'avais adoré ce film. Pour moi, c'est un des films de l'année 2012. Et puis en 2020, Les Traducteurs, avec Lambert Wilson et Olga Kurylenko. J'avais été un peu réticent sur ce film et je viens de le revoir sur Canal et je l'ai beaucoup plus apprécié en le revoyant. En attendant Bojangles, ça dure 2h05. C'est Camille et Georges qui dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles. Chez eux, il n'y a pas de place, ou plutôt il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis, jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte. Alors, la revue de presse très partagée. Thierry Chaise dans West France, un film attachant où rayonne Virginie Efira, décidément à l'aise dans tous les registres. Frédéric Strauss, Télérama, il nous touche en plein cœur, les héros de ce film qui prend la forme d'un étonnant hymne à l'amour. Aussi excentrique soit-il, Régis Roinsart, Populaire, Les Traducteurs, c'est les rendre proches de nous, comme ils sont à l'évidence proches de lui. La rédaction du Parisien de ce roman fou reste un film un peu sage, mais qui fait battre le cœur très fort, ne le boudons pas. Thierry Chaise en Première, on sent le cinéaste plus à l'aise dans les moments joyeux où l'espièglerie est aux commandes, mais quand le ton se fait plus noir, voire désespéré, il peut s'appuyer sur une Virginie Efira à l'aise, elle, dans tous les registres. Paris Match, Fabrice Leclerc. Le film est un poil trop long et hésitant, mais il s'en dégage quand même une vraie élégance. Stéphane Joubi, dans le journal du dimanche, toute la poésie du livre, qui tenait pour bonne part à sa narration par le regard émerveillé de l'enfant, disparaît dans un récit plus à plat. Restent les décors et la présence de Virginie Efira, une nouvelle fois impeccable en femme borderline, comme on l'avait vu par exemple dans Madeleine Collins la semaine dernière, proposé toujours au cinéaste. Éric Le Neuf, dans Le Figaro, le film patine, tourne à vide, inutile, gênant, enchanté de lui-même et hésite entre Modiano et Boris Vian. Xavier Lerper dans L'Obs, les comédiens font ce qu'ils peuvent pour faire exister cette tragédie qui ressemble à un mauvais soap pour TF1. Le film est proposé donc au Pâté Quinconce et au cinéaste.
Ah non,
moi j'avais, pas au cinéaste, CGR. Au CGR. Pardon.
Oui.
C'est un film extrêmement déconcertant, peut-être trop d'ailleurs pour mon goût, par ses ruptures de ton. Ça commence comme une comédie débridée, joyeuse, puis ça vire à la tragédie bouleversante, dirons-nous. Cela débute donc par un coup de foudre, celui de Georges, un séduisant affabulateur, un peu escroc, irrésistible de charme pour Camille, une très belle jeune femme, pleine de vie et de spontanéité. Pour eux, la vie est belle, elle est pleine d'insouciance. Très vite, le couple a un enfant, Gary, qu'ils élèvent à leur façon, hors des sentiers battus et d'une éducation traditionnelle, disons, de façon conforme à leur mode de vie, disons, excentrique. Alors certes, par moments, on ressent une certaine fêlure chez Camille, mais rien de bien grave, cela ne dure pas. Hélas, hélas, le bonheur partagé va finir par laisser la place à l'inéluctable. C'est un film plein de fantaisie, du moins dans sa première partie, mais il est difficile d'en dire plus si on ne veut pas divulgâcher, comme on dit aujourd'hui, spoiler la suite. Romain Duris et surtout Virginie Efira sont hors normes dans leur interprétation de ce couple plein de vie, plein de grâce. La mise en scène est fluide, elle s'appuie sur de très beaux décors, reconstitution des années 50-60, la lumière est magnifique. Tous ces atouts sont indéniables, mais alors d'où vient, alors que finalement je ne suis pas si emballé que ça par le film qui ressemble par bien des côtés, par bien des aspects à L'écume des jours de Michel Gondry. Voilà, à part que chez Michel Gondry, il y avait peut-être plus de fantaisie dans la mise en scène. Alors c'est déjà sûrement trop long. Hein. Moi j'avais vu l'adaptation de la pièce de théâtre et la pièce de théâtre faisait 1h20, là on est à plus de 2h. Bon, et puis tout semble un petit peu forcé dans cette fantaisie tragique. Tout semble un petit peu artificiel. Il y a évidemment un côté poétique, mais bon, vous savez, je ne suis pas très, très sensible à la poésie. Et ça ne m'a pas vraiment touché. Alors quoi ? Alors quoi ? Ben c'est, je répète, trop artificiel, trop écrit, trop irréel. Et pour moi, c'est une déception, vraiment une déception, parce que j'attendais mieux de ce film. Mais bon, on peut le voir éventuellement pour Virginie Efira, bien
entendu. Oui, c'est ce que je
et
pensais pour moi.
Et pour Romain Duris, voilà. Allez. Life on Mars, c'est un titre qu'on entend dans Licorice Pizza, et je n'oublie pas de le dédicacer à Thierry Nouchi, qui était un grand fan de David Bowie, qui était un des chroniqueurs historiques de Clap pendant très longtemps. Voilà, donc Life on Mars sur Radio Alpa, et c'est dans la bande originale du film Licorice Pizza. C'est normal, ça démarre doucement, il n'y a pas de son au départ, mais ça va venir.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? Mm-hmm.
sits on America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best.
Le somptueux Life on Mars de David Bowie que l'on entend dans le film Licorice Pizza. 355, c'est un film de Simon Kinberg. Simon Kinberg, réalisateur, scénariste, producteur belge, et oui, né en 73. Il est le réalisateur en 2019 de X-Men Dark Phoenix avec James McAvoy et Michael Fassbender. C'est aussi le scénariste de films comme Monsieur et Madame Smith, de X-Men, l'affrontement final, de Sherlock Holmes, des Quatre Fantastiques, etc., etc. Son film dure 2h03, il est proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Le sujet, une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques, tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables, là où l'arme destructrice a été localisée à Paris. Leur mission, empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'en emparer, pour déclencher un conflit mondial. Les espions vont devoir choisir entre se combattre ou s'allier. Voilà, et ben, la revue de presse, elle va être assez rapide, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est allé voir ce film. Chez les critiques, il y a Catherine Ball dans Le Parisien. Si quelques répliques apportent des notes d'humour bienvenues, certaines scènes d'action font sourire par leur surenchère. Et Jérémy Cousteau dans Télérama, déclinaison 100% féminine et en talons aiguilles, des blockbusters à la Mission Impossible. Le film de Simon Kinberg, produit par Jessica Chastain, ne renouvelle en rien le genre. Voilà ce qu'en dit la presse. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Alors, 355, je répète, on peut le voir au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Au Pathé Quinconce, il y a même la possibilité de le voir avec une séance en version originale par jour. C'est un pur film d'action dont la seule originalité, ça a été souligné par le critique de Télérama, est d'avoir pour personnages principaux des femmes. Chose rare dans le genre, si ce n'est pour les voir en faire valoir, hein, les fameuses James Bond Girls, par exemple. Mais à part ça, eh bien, le film fonctionne selon les schémas habituels, avec une overdose de gunfight et de baston. De nombreux décors internationaux, on se balade entre Paris, le Maroc, la Chine et quelques autres, avec les habituels multiples rebondissements et trahisons qui permettent au film de durer 2 heures, ce qui est beaucoup trop, mais aujourd'hui c'est pratiquement toujours le cas dans ce genre de film. 2 heures, c'est pratiquement le minimum syndical. L'histoire nébuleuse n'est qu'un prétexte. En gros, il s'agit de récupérer un logiciel qui permet de contrôler tout ce qui, de près ou de loin, contient l'électronique et qui, tombé dans de mauvaises mains, aboutirait à d'inévitables catastrophes. Charge à une équipe de redoutables espionnes, d'abord ennemis, puis associés, de remettre la main sur ce logiciel, d'où d'innombrables scènes d'action. Alors, il s'agit ici d'un pur divertissement, hein. Pas une once de vraisemblance ou de crédibilité. Tout dans la surenchère, on le sait dès le départ, dès qu'on entre dans la salle, et on ne va donc pas s'en plaindre. Résultat, un film musclé et glamour. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de très belles femmes dans le film. Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger. Voilà donc pour les principales. Mais donc, 2 heures, parfait pour passer 2 heures sans la moindre prise de tête. Et les producteurs s'achètent ainsi à bon compte un label de féminisme, puisque les méchants sont uniquement des hommes et les gentils, eh bien, ce sont des femmes. Un film que devraient adorer Sandrine Rousseau et Alice Coffin, qui ne rêvent que de déconstruire les hommes. Eh bien là, c'est parfait pour les déconstruire, ils se font tabasser à longueur de film. La fin laisse même penser que si le film fonctionne bien au box-office, on aura droit à un deuxième épisode avec la même équipe. Voilà, enfin, dernière remarque quant à la signification du titre, 355. Elle est expédiée en 30 secondes à la fin du film, et elle est totalement anecdotique, je ne vous la donne pas, elle n'a aucun intérêt. Voilà, c'est un peu comme d'ailleurs Licorice Pizza. Le titre, il n'est même pas expliqué dans le film. Alors, il paraît que c'est une chaîne de pizza... De maison de là où on vend des disques, je ne sais plus comment on appelle ça. Un magasin de disques.
Il y a aussi les marchands de matelas, à eau.
Ah oui, non, mais la Licorice Pizza, là, c'est à l'origine une chaîne de magasins de vente de disques. Je viens de vérifier ça sur Internet. Voilà. Donc voilà, 355 au Méga CGR, au Pathé Grosse. Pour passer 2 heures si on aime les films d'action,
je crois que c'est pas pour moi.
Non, je crois pas non plus. Mes frères et moi, c'est peut-être davantage pour toi. Mes frères et moi, c'est un film qui est proposé par les cinéastes, exclusivement les cinéastes. C'est un premier film qui a droit à 2 séances par jour. Son réalisateur, Johan Manka, premier long métrage, mais on l'avait vu acteur dans La vérité si je mens, les débuts. C'est pas un très bon film, même loin de là, c'est un carrément mauvais film. Mais donc, Johan Manka est passé derrière la caméra, il est réalisateur scénariste de ce film, Mes frères et moi, qui dure 1h48. Nour a 14 ans, il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et les travaux d'intérêt général. Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Et bien là, une fois de plus, la presse est très élogieuse avec Mes frères et moi. C'est Olivier Delcroix dans Le Figaro, avec son cinéma sans fioritures, rapide, rude, monté à la serpe. Johan Manka trouve la note juste. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche. Cet attachant conte réaliste, enveloppé par la lumière chaleureuse du midi, trouve le juste ton, bienveillant sans être convenu, positif sans être naïf, et c'est lui par sa tapageuse mais solidaire fratrie que compose un quatuor de jeunes acteurs épatants. Olivier De Bruyne dans Les Échos, pour ses débuts de réalisateur, Johan Manka met en scène un ado qui tente d'échapper à la mouise en s'adonnant à sa passion pour le chant lyrique, un premier film prometteur. Thomas Borès dans Ouest France parle d'un joli film sur la fin de l'enfance et les douleurs qui vont avec. Céline Roudin dans La Croix, fuyant le misérabilisme, contenant l'émotion par le rire, Johan Manka signe, en dépit d'un scénario un peu attendu, un conte tendre et solaire sur le pouvoir de l'art de déjouer les déterminismes. Sophie Grassin dans L'Obs, émouvant et très prometteur. Voilà, 1h48, un film proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. Donc, ils sont 4 frères d'origine italo-maghrébine, italien par le père, maghrébine par la mère, qui, dans leur appartement d'un quartier populaire d'une ville du sud-est de la France, au bord de la mer, c'est genre Cassis, vous voyez, ce genre de ville un peu, hein, ou la Seine-sur-Mer, s'occupent de leur mère en fin de vie. Les 3 aînés vivent de petits boulots et de petites combines. Le plus jeune, Nour, qui a 14 ans à peu près, découvre lors d'un TIG, travail d'intérêt général, effectué dans son collège lors des grandes vacances, il découvre l'opéra, grâce à une jeune prof, elle-même artiste lyrique, qui a su repérer son don pour le chant. Alors ce sera pour lui peut-être l'opportunité d'échapper à son quartier et à son milieu. Donc le film est une chronique de la vie quotidienne et un film d'initiation, comme on en voit quand même beaucoup, il faut bien le reconnaître. La seule originalité, c'est que pour éventuellement s'en sortir, le jeune héros le fera par le chant, comme c'était par exemple le cas pour Billy Elliot par la danse classique ou d'autres par la musique. Ça peut être le rap ou éventuellement par le sport, voilà. Un film gentillet, moi j'ai trouvé, qui cherche à montrer qu'on peut dépasser les déterminismes si on fait les bonnes rencontres et si on fait preuve de persévérance. Les acteurs sont bons, leur jeu spontané et naturel, sous des dehors frustres, ils sont à leur manière plein d'amour les uns pour les autres et forment une famille unie, voilà. Rien toutefois quand même de bien exceptionnel, même si le ton est juste. on a quand même une impression de déjà beaucoup vu pour ce film qui peut toucher par son ode à l'amour fraternel. Sans doute bien optimiste, il faut se forcer quand même un petit peu pour croire qu'on peut ainsi aussi facilement être touché par la grâce de l'art en une après-midi pratiquement. Bon, pourquoi pas après tout, hein, ne pas y croire, mais au moins on évite quand même le cliché qui s'en sort par le rap. C'est tellement facile aujourd'hui de s'en sortir par le rap. Ou le sport, et on évite aussi le misérabilisme. Voilà ce qu'on peut dire sur Mes frères et moi. Mes frères et moi, c'est un film qui est proposé donc au cinéaste avec 2 séances par jour. Voilà, Mes frères et moi. Allez, on repart dans les années 60. Dadou Run Run, la version originale des Crystals.
Ah.
La version française, c'était... Ah ben, il y en avait deux.
Johnny.
Johnny et Franck Alamo.
Ah oui, aussi.
Ah oui, Franck Alamo. Dadou Run Run, ben là, c'est The Crystals sur Radio Alpa, 107.3 effectivement. Dadou Run Run, les Crystals, un titre que l'on entend, semble-t-il, dans Twist à Bamako. Je dis semble-t-il, puisque, je répète, ni Pierre ni moi n'avons vu Twist à Bamako. Et c'est le moment de justement parler.
Il faut que je le vois.
Ben, il faut que tu le vois, mais le problème, c'est qu'au cinéaste, il y a très peu de séances.
Ben, c'est à 18h, c'est ça le problème.
Ben, c'est pas forcément à 18h, mais
ben, presque tous les jours.
Il y a séances, quelquefois deux fois, mais simplement une fois par jour. Pour un film de Guédiguian, c'est assez étonnant. Mais bon, le problème, c'est que les cinéastes. Donc, 4 salles, et propose, je ne sais pas, il y a peut-être 20 films proposés cette semaine aux cinéastes, et donc, il faut faire de la place. C'est ça, le problème, voilà. Donc, on est en 1962. Ah oui, quand même, quelques mots sur Robert Guédiguian. Quand même, c'est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur né en 53. Il a commencé dans les années 80 avec un film qui s'appelait « Dernier été », dans lequel on trouvait l'équipe habituelle des films de... Guédiguian, à savoir son épouse, Ariane Ascaride, et puis ses potes, Gérard Mélan, Jean-Pierre Darroussin, etc., etc. Donc, en 80, Dernier été, 83, Rouge midi, et puis, bon, je ne vais pas tous les faire, mais le film qu'il a vraiment révélé, c'est en 97, Marius et Jeannette, puisqu'il avait obtenu des Césars pour ce film-là, avec donc toujours Gérard Mélan et Ariane Ascaride. Et puis, on l'a vu ensuite dans des films comme La ville est tranquille, enfin, on l'a vu, il a réalisé des films comme La ville est tranquille, avec Darroussin aussi, Marie-Jou et ses deux amants, Mon père est ingénieur, Le promeneur du champ de Mars, ça c'était un petit peu différent, c'était sur François Mitterrand, c'était avec Michel Bouquet et Jalil Lesper, Le voyage en Arménie, Lady Jane, avec Ariane Ascaride, Darroussin et Mélan, toujours, L'armée du crime, ça c'était sur la résistance, sur le réseau Manoukian, avec Simon Abkarian et Virginie Ledoyen. Les Neiges du Kilimandjaro en 2011, Au fil d'Ariane en 2014, Une histoire de fou en 2015 et La Villa en 2017 et Gloria Mundi en 2019. Je ne donne pas à chaque fois les acteurs parce que ce sont toujours les mêmes, Ariane Ascari, Jean-Pierre Darroussin. Gérard Mélan, là évidemment on est à Bamako, donc c'est des acteurs africains qui jouent dans ce film qui se passe en 1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps et âme l'idéal révolutionnaire. Il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays Bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé, mais ils espèrent que pour eux, comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira. Qu'en pense la presse? Eh bien, Caroline Vivier, dans 20 minutes, déclare ce film à la fois beau, généreux, mais douloureux, interroge sur l'échec du socialisme. Alexis Campion, le journal du dimanche, une tragédie attachante, singulière, à la fois naïve et actuelle, toujours à la limite de la démonstration politique et du cliché, mais assumé comme tel au fil d'une histoire qui vaut le détour. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, un récit exalté et lucide, emporté par une mise en scène qui épouse le mouvement de son héros, ivre de jeunesse et d'absolu. Isabelle Danel, des Inrecuptibles, Guédiguian raconte avec cœur le Mali des années 60, le rêve socialiste, la jeunesse et la liberté. Sandra Onana, dans Libération, l'équation que forment ici la fête, l'amour et la politique, confère au film tout son éclat chaleureux qui fraye avec la nostalgie. Les grands thèmes qui le traversent sont connus d'avance, la beauté d'une utopie qui s'ébauche, la tragédie de sa mise en échec, mais non, rien de théorique, tout est corporel, consistant, sensuel même, dans l'idéal tel que le film Guédiguian. Samuel Douer dans Télérama, le didactisme des dialogues est parfois appuyé, mais en s'inspirant avec brio des images du photographe Malik Sidibé pour sa mise en scène, Guédiguian propose un bel hommage à cette jeunesse d'hier dont les aspirations font écho à celles d'aujourd'hui. Ariane Allard en positif, bien sûr, le parallèle entre l'histoire de ses jeunes amants et celui du Mali peut paraître naïf, voire un peu gauche et appuyé au départ. Reste que plus l'intrigue avance et plus elle sonne juste, comme boostée par la fraîcheur de ses interprètes, notamment Stéphane Bach et Alicia Dalouz, et la musique Yéyé qui enchantait en 1962 les clubs et les nuits de Bamako. Étienne Sorin dans Le Figaro parle d'un film sympathique mais trop didactique, et Jean-Claude Rasmierge dans La Croix, sur fond d'indépendance, de décolonisation et de socialisme africain. Le 22e film de Robert Guédiguian, chromo-démonstratif, souffre de trop d'applications. Donc nous n'avons pas vu ce twist à Bamako pour des questions tout simplement d'horaire. Voilà. Et donc on peut le voir au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Voilà. Allez, hop, on revient à Licorice Pizza. Cette fois-ci, les Doors dans un titre qui s'appelle Peace Frog sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Blood in the streets in the town of New Haven. Blood. stains the roots and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic LA.
Frog, les Doors, un titre que l'on entend dans le film Licorice Pizza, Peace Frog, la grenouille de la paix. Bon,
c'est pas un des plus connus.
Non, c'est pas un des plus connus, mais bon, voilà. Donc, bien, avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, je me fais un petit plaisir. Je vais vous passer Belle, Belle, Belle de Claude François. C'est l'idole de ma jeunesse, moi, Claude François. J'assume parfaitement.
C'est son premier succès, je crois.
Oui, oui, absolument. Oui, c'est ça. Après, il y a eu Marche tout droit.
1962, ça,
oh,
va
ça
être
va être
quelque
ça.
Chose
oui,
comme
c'est
ça.
62, exactement. Oui. Voilà, donc, Belle, 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 Claude François, on l'entend, semble-t-il, dans Twist à Bamako. Voilà, et bien là, vous l'entendez sur Radio Alpa 105.3 FM.
Belle, petit fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
Belle, 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 Claude François. Moi, j'ai twisté là-dessus, mais c'était pas twist à Bamako, moi, c'était twist à Orthès. Tout simplement. Allez, les films à l'affiche la semaine prochaine. Déjà, ah oui, quand même, signalons que ceux qui n'ont jamais vu le film Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, il y a une ou deux séances au cinéaste parce qu'il y a une rétrospective de Michael Cimino au cinéaste. Il faut savoir
ouais,
qu'il
aussi...
y a un documentaire qui va sortir dans 15 jours, Michael Cimino, Un mirage américain. Donc, on peut, si vous avez
mal vu... Il y a aussi
un
cycle sur le réalisateur de Licorice Pizza.
Oui, exactement, oui. Paul Thomas Anderson. Oui. Mais, Voyage au bout de l'enfer, c'est un des plus grands films de tous les temps pour moi. Bien, enfin bref, les films à l'affiche la semaine prochaine. Scream, eh oui, c'est un reboot, je pense, de la fameuse saga Scream. On y retrouve d'ailleurs les acteurs originaux, Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette. On va voir ça, on va voir ça. Permis
moi,
de construire de Eric Fraticelli avec Didier Bourdon. Moi, je l'ai vu en avant-première. C'est un film, c'est une comédie assez sympathique, ma foi. Je ne vais pas dire qu'il faut absolument aller la voir, mais c'est pas si mal que ça. Wistreham de Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche. Je l'ai vu hier soir, moi, en avant-première, et c'est vraiment très, très bien. C'est l'adaptation, sous la forme de film, du livre de Florence Aubenas. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Adieu, Monsieur Hoffman. Là aussi, je l'ai vu en avant-première. Et là, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et c'est un petit peu différent. Le point de départ est le même, mais après, c'est différent. Et c'est un bon film français, qualité France, comme on dit, avec un Gilles Lelouch absolument époustouflant. quand on a vu Julie Lelouch dans Bac Nord et qu'on le voit dans Adieu Monsieur Hoffman, on mesure l'étendue du registre.
Oui, ça change tout. Hein.
Absolument. Alors, les autres films à l'affiche la semaine prochaine, probablement Jane par Charlotte, documentaire de Charlotte Gainsbourg sur Jane Birkin, c'est prévu normalement au cinéaste. Au cinéaste prévu également Vitalina Varela de Pedro Costa, je ne sais pas ce que c'est, The Housewife, un film japonais, et puis il devrait sortir le film Signe des héros du réalisateur sartois Claude Sossereau, que j'ai vu à l'avant-première déjà, bon, qui est surtout un film pour enfants quand même, faut bien le reconnaître. Voilà, donc les films dont je suis sûr qu'ils seront à l'affiche la semaine prochaine. Cette semaine, si vous avez bien écouté, il n'y a aucun doute possible, vous écoutez Pierre Barry, vous allez voir Licorice Pizza.
Absolument, je vous le conseille. Oui.
Voilà. Et puis si vous m'écoutez moi, ben, il n'y a rien d'absolument essentiel à aller voir.
Si je veux voir Twist à Bamako. Quand même.
Oui, bon. Ben,
écoute, pour le twist.
Pour le twist, voilà. Bon. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente semaine cinématographique pour un clap de rentrée un peu plus court que d'habitude, mais ce n'est pas ma faute. Moi, c'est les distributeurs qui décident de sortir peu de films la première semaine de janvier. Voilà, allez, hop, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente semaine cinématographique.
Au revoir.
Au revoir.